Vous écoutez
RMC.
RMC.
Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps.
Si je peux me permettre, tu sais pas où tu seras dans 3 ans. Moi, je sais pas. Peut-être toi aussi, mais moi, je sais pas.
Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue.
Le futur a montré certaines choses.
J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps.
Tu peux faire certaines erreurs dans le passé que tu fais plus dans le futur.
Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous. L'after continue évidemment jusqu'à minuit. Nous sommes en direct sur RMC, nous sommes en direct sur Afterfoot TV, nous sommes en direct sur la chaîne YouTube de l'after. Bref, on est en direct partout dans l'after, toujours première radio de France, bien sûr, le soir. Et Kevin Diaz est là. Salut Kevin.
Salut à tous.
Maxime Chalot, salut Maxime.
Salut à tous.
Et David Guzman, David, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Donc le directeur sportif, un ancien joueur professionnel, futur...
Directeur sportif.
Futur directeur sportif et un banquier qui ne sera sans doute jamais directeur sportif.
On ne sait pas.
Pourquoi tu me fais des efforts ?
On sait. Pierre Sage, en fait, il donne aucune leçon. Ouais, on ferme des portes.
Ok. Bon, souvent les banquiers deviennent présidents, pas forcément directeur.
Ouais, entraîneur. Mauricio Sarri était banquier. Ouais,
souvent les banquiers restent banquiers. C'est les mauvais banquiers qui peuvent devenir directeur sportif. Non ?
Ou les mauvais directeurs sportifs qui peuvent devenir banquiers.
Bon, l'événement ce soir dans l'after, c'est la fin des championnats. Championnat anglais, championnat italien qui se termine tout à l'heure de 23h à minuit. On analysera les matchs du jour. On fera un premier bilan à chaud avec Julien Laurence, Daniel Emanoussia. C'est passé beaucoup de choses en Angleterre cet après-midi. Chelsea qui flop, Sunderland en Coupe d'Europe et tout le reste. Plein de gens qui font leurs adieux, des célébrations, des déceptions. Donc on fera le point tout à l'heure. Avant cela, nous allons parler de l'homme du week-end, Pierre Sage, vainqueur de la Coupe de France avec Lens. Il sera d'ailleurs demain soir dans l'after, Pierre Sage. Pierre Sage qui a fait toutes les émissions foot du week-end. Hein. Voilà, là, il lui manque silence, ça pousse. Et il aura fait un grand chelem.
Maternel aussi, je crois.
Voilà. Mais il fera l'after demain soir, bien sûr. Va-t-il changer les mentalités dans le foot français, Pierre Sage? Sa réussite va-t-elle changer les mentalités? On va en débattre dans quelques instants. Et puis David veut revenir sur l'OM avec quelques jours de recul. La saison de l'OM et la gestion des médias qui apparemment a quand même bien infusé le vestiaire. Et puis l'actu du jour, évidemment. Alors dans l'actu du jour, il y a un match cet après-midi qui est passé un peu inaperçu, mais sachez que Laval reste en Ligue 2. Laval en barrage a battu Rouen 1-0. Rouen donc ne montera pas en Ligue 2 et reste en Ligue 3. Un match qui était sur RMC cet après-midi.
Je l'ai commenté.
Oui, j'ai entendu. Ouais. J'ai vu que tu étais à bloc sur Rouen.
Oui, mais j'étais pas plus pro Rouen que pro Laval. Mais
encore heureux.
Bah après,
commentateur, tu dois être neutre. Hein. Enfin, je sais pas.
Ouais, c'est vrai. Bah, j'ai été neutre.
T'as été commentateur, toi, Kevin.
Moi, je suis absolument pas neutre.
En tout cas, Laval a gagné et Laval reste.
Attendez, on en reparle dans quelques instants tout de suite. Jean-Luc Roy est là, car il y a un Grand Prix ce soir dans l'after. Grand Prix du Canada. Jean-Luc, le départ est imminent.
Absolument. Ça part maintenant, Gilbert. Là, allumage des feux. À l'extinction, on est parti pour 70 tours de ce Grand Prix avec des conditions météo extrêmement incertaines. Je n'ai jamais vu une grille avec autant de panachage de pneumatiques. Les deux hommes sur la première ligne, donc les Mercedes A, alors on avorte le départ là, il y a un problème quelque part justement, peut-être Wires Control, on accorde un tour de formation supplémentaire pour les raisons que j'évoquais. Alors apparemment, l'un des pilotes a calé, il semblerait que ce soit une Racing Bull du côté gauche, ça peut être Isaac Hadjar malheureusement, Arvid Lilleblad qui a calé sur la ligne de départ. Donc j'ai le temps de te parler des pneus parce que c'est absolument fondamental.
Kevin Diaz dans le parking RMC.
C'est-à-dire que là, une partie de la piste est humide, l'autre partie est sèche. Donc les pilotes ont le choix de partir soit avec des pneus slick, donc les pneus lisses pour le sec, soit les pneus tendres, ce que la majorité du plateau a choisi, soit des pneus médiums. Et une partie d'entre eux, c'est-à-dire exactement 5 d'entre eux, ont choisi des pneumatiques intermédiaires, donc des pneumatiques normalement pour piste humide. Et là, effectivement, on assiste à ce problème malheureusement qui affecte Arvid Lindblad. Il devait partir 9e sur la grille. C'est la raison pour laquelle, en fait, on a annulé ce départ. On a donc quelques minutes, Gilbert, le temps de voir si on évacue la monoplace ou si on peut la remettre en route, là, mais je crains qu'il parte des stands.
On revient vers toi. Maxime, tu connais Jean-Luc ?
Oui, j'étais avec lui cet après-midi.
Un point commun, c'est les États-Unis.
Ah d'accord, je pensais la Formule 1, parce que question produit, je suis moyen.
Tu sais que ce gars est une légende.
Ah ben, je le sais bien.
Vous allez me gêner.
Là, t'as du très très lourd. T'as du très très lourd. Combien de Paris-Dakar ?
14.
Combien de Grand Prix ?
Ah non, des Grands Prix, je n'en ai pas fait, mais j'ai fait le 24 heures du monde. Ah, les commentaires.
Ah, 24 heures du monde, écoute, t'as fait le 24
heures du monde. Oui, ça, je les ai fait en tant que pilote. Mais les commentaires de Grands Prix, écoute, avec Patrick Tambay, on avait arrêté de compter à 350. Là, je dois en être maintenant à 500 ou 550, voilà. Je sais pas.
Voilà, ça, c'est du lourd.
Mais, si j'arrive à 500 after.
Ben voilà. Il y a pas de raison. On évacue, par parenthèse, la monoplace de David Lindblad. Donc, ce qui donne encore quelques tours de reconnaissance supplémentaires.
Donc, lui, il est dû pour rien, lui, en fait.
Ben là, ils sont obligés de remonter toute la voie des stands, tu vois, parce que manifestement, il n'y a pas de possibilité au bout de la grille. Donc, on remonte en reculant la voiture. Les commissaires font le boulot et on va la rentrer. Donc, ça nous laisse encore un petit peu de temps. Oui, okay. Je pense.
Bon, bah, écoute, on revient pour toi pour
je
le nouveau départ.
Piste est libre. Voilà.
Ça marche. Donc, Rouen, qui c'est qui était à fond sur Rouen là? C'est Kevin, c'est toi, hein?
Non.
Ah non, attends, je veux qu'il y en avait un qui disait
Ouais.
D'accord.
Tu sais très bien.
Oui, je sais très bien.
Même si Rouen, c'est un très très beau club amateur, hein, faut quand même le dire.
C'est un ancien club pro surtout. Un club historique du foot français.
Dans une situation particulière.
Dieu chance,
ils partagent leurs installations avec un autre club de la.
Du coin.
QRM.
Donc ils monteront pas cette année. Et puis alors il y a aussi la finale retour de la Ligue des Champions africaine. Sachez que le club de Rabat, le Phare, mène 1-0 face au Mamelodi, club sud-africain. Il y a eu 1-0 à l'aller pour les Sud-Africains. Donc pour l'instant égalité parfaite. On est à la mi-temps. Et puis il y a le tennis évidemment. Eric Salio, Roland Garros, les célèbres Night Session d'Eric Salio, qui vont s'enchaîner dans l'after pendant 15 jours. Et c'est parti ce soir avec Djokovic sur le court. Mon cher Eric, salut.
Salut Gilbert, salut à tous. Ouais, il n'y aura pas des Night Sessions pendant toute la quinzaine, Gilbert. Il n'y en a que 11 ou 12, je crois. Mais c'est déjà beaucoup. 1-7-0 pour le jeune français, le jeune lyonnais, le géant, puisqu'il mesure 2m03, Giovanni Petit Péricard, 7-5.
C'est Gianni qui ressemblait à Wagnon Eloi. Qu'on salue d'ailleurs.
Ah, tu as cacassé, accepté. Voilà. Et 5 jeux partout dans la deuxième manche. Le français a sauvé beaucoup de balles de break.
Sur blonde.
Pour l'instant, ça tient.
Voilà, tu lui mets un maillot de Monaco ou de Lens, maillot Chopi. Ouais. Hop, ça y est, c'est pas, il peut le faire ou pas?
Ah bah écoute, il faudrait qu'il gagne le deuxième au tie-break peut-être, et là on pourrait commencer à rêver. Il y a deux autres Français sur les cours, enfin même trois. Valentin Royer met 2-7-0 face à Adelien le Bolivien. Pierre Gerber est mené une manche à zéro par Sonego, et Xenia Efremova, la petite pépite qui a 17 ans, a perdu la première manche contre une Roumaine, 6-3.
Très bien, à tout à l'heure. Tu nous appelles dès qu'il se passe un truc, dès qu'il y a quelque chose d'important au programme. La F1, on est toujours dans les tours de chauffe.
On est dans le tour de formation. Maintenant, on a évacué la monoplace de.
On dit plus tour de chauffe.
Non, là, c'est le tour de formation, si tu veux. Voilà, ça s'appelle comme ça. C'est avant la mise en grille, parce qu'ils se forment, si tu veux, pour se positionner
dans
sur leur grille de départ. Voilà. Donc, il y en a un qui a de la chance, c'est Hülkenberg, puisqu'il va avoir une place libre devant lui. Donc, à mon avis, ça va lui libérer un peu l'espace et lui donner de l'air. Et comme on l'aperçoit, hein, la piste, elle est humide par endroits, elle est sèche à d'autres. Donc, je peux te dire que ceux qui ont opté pour les pneumatiques intermédiaires vont devoir préserver les pneumatiques, parce qu'ils vont
sur l'île, sur comment elle s'appelle, l'île à Montréal, là.
C'est l'île l'île Notre-Dame, au milieu du fleuve Saint-Laurent.
Exactement.
C'est là qu'avait eu lieu l'exposition universelle de 67. Et parce que c'est une île artificielle, ça, au milieu du fleuve.
Okay. À Montréal, c'est très sympa l'été, mais il y a des moustiques gros comme des poulets.
C'est moins sympa l'hiver. Hein.
J'ai pas
moins sympa l'hiver.
Moi, j'ai vu au Québec l'hiver, c'est violent.
Moi, j'ai joué contre Montréal l'hiver, c'était pas fun.
Contre l'impact,
ouais.
Combien
au Molson Stadium, t'as
joué? Ouais, il devait faire moins 10, moins 15, c'était horrible.
Ouais.
Horrible, ouais. Mais bon.
Et tu sais, c'était Gilles Vigneault, le chanteur, qui disait « Mon pays, c'est l'hiver ». Donc,
C'est une dion aussi.
Bon, du coup, je ne sais pas si on démarre notre débat sage, parce que vu que la F1 va démarrer, là...
Oui, là, ils vont se mettre en grille. Voilà. Va partir. Hein. Le pauvre Lindblad, lui, il ne partira pas, apparemment, parce que c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre.
Donc, il est venu pour rien, ça, c'est magnifique.
Malheureusement, ouais, c'est très dommage, parce que c'est un jeune pilote britannique de 18 ans, extrêmement talentueux. Donc voilà.
Attention, messieurs, si vous ne connaissez pas un départ de Formule 1 avec Jean-Luc Roy, c'est maintenant.
Ben voilà, c'est maintenant. Donc on va s'y mobiliser. Donc avec, en première ligne, on a le temps de le rappeler, les deux Mercedes de Russell et Antonelli. On rappelle que Russell avait signé la pole et gagné le premier Grand Prix en Australie. Ensuite, Antonelli a gagné les trois suivants et donc réussi un exploit unique dans l'histoire de la Formule 1, puisque jamais un pilote n'avait signé sa première pole, plus les deux suivantes et les trois victoires qui vont avec. Derrière, on a les Papaya, donc les McLaren, qui vont partir avec des pneumatiques intermédiaires. intermédiaire. Donc je le disais, il va falloir ménager ces pneumatiques qui vont se dégrader dans la partie sèche de la piste. Troisième ligne avec Hamilton et Verstappen. Quatrième avec Isaac Hadjar, le français, avec la Red Bull, et Charles Leclerc avec la Ferrari. En cinquième ligne, eh bien, on n'aura pas Lindblad puisqu'on vient de le rentrer au stand, mais il y aura Colapinto avec la première des Alpines, et puis Hülkenberg, Lawson, Bortoleto, Gasly, Sainz, Berman. Voilà, on allume les feux et on est parti. Alors est-ce que il va y avoir une friction entre les deux pilotes Mercedes? Attention, avec un excellent départ derrière depuis Lando Norris. Oui, il a pris l'avantage, Lando Norris, qui a réussi à se glisser au détriment des deux Mercedes qui s'observaient. Eh bien, excellent départ de Lando Norris, le champion du monde en titre avec le numéro 1. On va aborder ici le virage déjà numéro 3, un virage très délicat, très dangereux, avec un mur, puisque c'est là que Jean-Pierre Jabouille s'était cassé les deux jambes ici en 81. Ça a même mis fin à sa carrière de pilote de Formule 1. Les enchaînements maintenant avec, je le répète, des montes pneumatiques extrêmement différentes pour les pilotes, des pneumatiques soft. Oulala, on allume derrière, c'est Pierre Gasly apparemment qui tente une remontée là au freinage. Ça a l'air de se passer bien en tout cas jusque là. Pas de friction, on est parti, on termine le tour ou pas, Gilbert?
Non, on va s'arrêter là.
Alors on va s'arrêter là. Et ben donc pour le moment, on a donc
Lando Norris. Ça a permis à Kevin Diaz d'apprendre l'existence de Jean-Pierre Jabouille, ouais, parce qu'il l'avait oublié.
À tout le monde.
Vous ne connaissiez pas? Bah de nous au moins quand même.
Ah, si, un pilote français, Jean-Pierre Jabouille, qui a été le premier vainqueur avec une Renault Turbo à Dijon. Ça vous parle pas?
Non.
Non, par contre, on est
du Grand Prix de Dijon, pour se souvenir pas.
C'était en 1979.
Paul Belmondo, on était pas nés. Ouais, d'accord, mais là c'est.
Oui, bah oui.
JPJ, non.
Bon, il y a aussi la dernière journée du championnat d'Italie en cours, hein, avec un enjeu notamment pour la Juve, pour la Ligue des Champions. Pour l'instant, ça part mal parce qu'il y a 0-0 entre Torino et la Juve dans le derby de Turin, alors que Côme, concurrent direct, mène 2-1 avec Cremonese. Je vous tiens informé de l'évolution du débat. Bon, Pierre Sage, et ensuite on retournera à la F1 et au tennis, évidemment. Pierre Sage va-t-il changer les mentalités? Pourquoi est-ce qu'on pose cette question, les gars? Vous allez rentrer dans le détail parce que c'est un coach. Il faut le rappeler, même si maintenant, ça fait quelques mois qu'il est bien installé dans le paysage du foot français, qui vient un peu de nulle part, qui a eu un parcours atypique, monde amateur, adjoint, il est monté progressivement, et puis il y a eu comme ça une révélation au plus haut niveau assez inattendue pour lui. Donc, ça peut ouvrir un peu les chakras de certains dirigeants qui peuvent donner leur chance à des personnes de son profil, qui sont passées par des petites divisions, qui n'ont pas forcément les diplômes requis, qui n'ont pas été des joueurs exceptionnels à haut niveau. Et puis il y a son management, enfin il y a plein de choses dans le style Pierre Sage, le parcours de Pierre Sage, qui fait que voilà, on va dire qu'il y a un vent d'air frais, il symbolise un vent d'air frais dans le football français. Est-ce que vous pensez que sa réussite peut changer un peu les mentalités?
Déjà moi je suis pas forcément d'accord là, tu nous le vends de manière à ce qu'il vient d'arriver un peu de nulle part. Alors en effet, c'est vrai, tu l'as dit, par rapport à son passif et son CV, c'est pas forcément quelqu'un qui a une grande carrière de footballeur, c'est pas quelqu'un qui avait énormément d'années derrière lui en tant qu'entraîneur, mais bon, faut pas oublier ce qu'il a fait à Lyon, faut pas oublier que il était quand même dans le monde professionnel. Mais j'entends ce
quand
que tu veux dire.
Quand il arrive à Lyon et il est au centre de formation, bon, c'est
mais
pas
en vois. Fait ça me paraît presque logique. Il arrive à Lyon au centre de formation et récupère l'OL dans un cas de figure qui était quand même assez incroyable, parce que l'OL était relégable et on pensait vraiment pas qu'il ferait cette saison-là. D'ailleurs, il les a sauvés quand même d'une une situation sacrément compliquée. Derrière, c'est la suite logique en fait. Ça a fonctionné à Lyon. Il est mis dehors un peu comme un malpropre par John Textor, qui avait déjà des vues sur Fonseca, et il arrive à Lens. Et on connaît la suite. Moi, j'ai envie de mettre en avant, c'est justement, c'est parler du personnage en tant que tel, c'est-à-dire en tant que Français, c'est-à-dire un entraîneur qui coûte pas forcément très très cher. En tout cas, si tu compares avec un entraîneur étranger, en fait, on faisait le parallèle avec l'Olympique de Marseille. Quel serait le meilleur profil pour un club comme l'Olympique de Marseille? Là, on est sur Lens actuellement, mais c'est vrai que quand je vois Pierre Sage avec tout ce qu'il dégage en fait, cette humilité, pour moi, ça fonctionne super bien et ça reflète exactement la mentalité du Racing Club de Lens. Donc voilà. Je suis d'accord avec toi par rapport au fait qu'en effet, il n'a pas un CV super, super incroyable, mais quand tu regardes un petit peu le contexte, finalement, je trouve qu'il est à sa place.
Ouais, mais un CV pas super incroyable parce que dans le monde professionnel, mais si tu regardes en fait le nombre de sessions d'entraînement qu'il a dirigées par rapport au nombre de sessions d'entraînement que la plupart des entraîneurs de Ligue 1 ont dirigées, les siennes sont certainement supérieures. Moi, ce qui me dérange, c'est encore cette barrière à l'entrée et cette fichue barrière du BEPF. Et qui est. D'ailleurs, on en parlait off avec Kevin. Est-ce que les dirigeants doivent s'intéresser à ces profils? Oui, mille fois oui. Est-ce qu'il y a des barrières pour qu'ils s'intéressent à ces profils? Oui, mille fois oui. Les promotions du BEPF sont très limitées. chaque saison, il y a un vrai numerus clausus, il y a des difficultés, il y a des barrières à l'entrée. Je crois que c'est 26% le nombre en fait de gens qui veulent entrer au BEPF et qui sont finalement reçus. C'est un certain coût, c'est 27 000 euros pour passer le BEPF. Donc quelqu'un qui n'a pas une carrière professionnelle, qui n'a pas un club, qui a les moyens financiers pour lui financer la formation, c'est quelque chose de très difficile. Et surtout,
ça, c'est pareil, pour les études, c'est pareil.
Non mais attends. Et surtout, le fait de ne pas avoir un entraîneur diplômé, on te sanctionne en te faisant payer une amende qui est relativement conséquente par match. Donc en fait, moi, que ce genre de profil abonde la Ligue 1 et arrive de plus en plus, bien évidemment, mais plus que la mentalité des dirigeants, la première chose à réformer, c'est le diplôme d'entraîneur, l'accès au diplôme d'entraîneur, et d'une tradition très française, cette folie du diplôme, ce besoin d'avoir un diplôme, ce besoin de se rassurer avec un diplôme. Alors certes, il y a la formation VAE avec l'équivalence, mais c'est d'ailleurs comme ça qu'il l'a eu, mais ce sectarisme académique laisse beaucoup trop de gens de côté sur le banc de notre...
Là, pour le coup, là, c'est un sujet que je maîtrise assez bien, puisque j'ai dû aussi passer des diplômes d'entraîneur, et je dois dire que les diplômes en France, ils sont quand même très structurants, très intéressants. Alors bien sûr que la FFF, que ce soit le BEPF, je connais pas, mais en tout cas pour le DES, pour le BEF ou même pour le BMF, qui sont les quatre niveaux de diplôme aujourd'hui, même s'ils ont été réformés il y a quelques années maintenant, ça reste quand même des lieux d'échange, des lieux de rencontre, que ce soit avec les formateurs, avec les autres stagiaires. Aujourd'hui, j'ai une très bonne relation avec beaucoup des 70 personnes avec qui j'ai passé le diplôme il y a quelques années. Donc ceci étant dit, c'est pas si facile, hein, je pense, pour la FFF de faire le tri. Toi, t'as dit qu'il y avait pas assez de place de distiller, mais il y a pas non plus assez de place de proposer par la FIFA. Faut savoir que chaque pays n'a le droit qu'à 10 places par an. Je discutais avec un entraîneur portugais il y a quelques jours qui me disait qu'au Portugal c'est pareil. Eux, ils font ça sur 2 ans. C'est ce que faisait la France aussi avant. Donc, mais eux, ils ont 20 places tous les 2 ans. Donc nous, on a 10 places par an, mais c'est le même principe. Donc il y a quand même cet entonnoir qui fait que il est difficile de passer ce diplôme pro pour tout le monde, que ce soit pour les anciens joueurs.
Il y a plus d'entraîneurs au chômage que d'entraîneurs qui bossent, faut le rappeler.
Bien sûr. Aujourd'hui, là où est le gros point de bascule, c'est que, comme dirait Kylian Mbappé, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais le football, il a changé. Et aujourd'hui, être entraîneur de football, c'est être un chef d'entreprise d'une PME, une PME en tout cas dans un club professionnel, d'une dizaine de salariés uniquement pour le staff professionnel. Et je te parle pas de la réserve, je te parle pas des kinés qui des fois, nous on a joué contre Lille en Coupe de France en 32e de finale, c'est une armée. Faut savoir que c'est une armée qui arrive avec des caisses et des caisses et des caisses et des gens et de la sécurité. Et donc c'est quand même aujourd'hui, quand tu es entraîneur, quand tu es manager de très haut niveau, c'est pas n'importe qui peut le faire, et il faut avoir une certaine expérience, peu importe que ce qu'elle soit du très haut niveau, de moyen niveau, mais en tout cas de manager une équipe. Ça c'est un. Après deux, au niveau des profils, bien sûr que pendant des années, le football français et d'autres footballs, le football portugais y compris, ont favorisé les anciens joueurs. Pourquoi ? Ça n'est pas uniquement de la faute des fédérations, c'est aussi de la faute des dirigeants de clubs qui disaient « Ah oui, mais lui, il a joué où ?» Mais on s'en fout. Un joueur de foot n'est pas un entraîneur. Un entraîneur n'est pas un directeur. Un directeur n'est pas un consultant. N'est pas autre chose, tu vois. Donc chaque métier est différent. Bien sûr qu'il y a des passerelles. Bien sûr que l'expérience de joueur peut aider et joue. Mais ce n'est pas uniquement ce qui va te faire de toi un bon entraîneur. Donc aujourd'hui, ces passerelles, elles sont quand même plus fines qu'avant. Mais des Francaises, mais des Pierre Sage, il y en a beaucoup en France.
Énormément.
Je dis, il y en a énormément. Je dis pas qu'il y en a 250, non, mais il y en a des gens qui sont ultra compétents, qui sont pour certains aujourd'hui en poste, en Ligue 1, en Ligue 2, en National, en National 2, même en National 3, voire même peut-être en dessous, des futurs très bons entraîneurs. Encore faut-il qu'ils aient, comme n'importe quel joueur, comme les joueurs que j'ai croisés, moi, au Lusitanos, qui aujourd'hui vont jouer en Ligue 1 l'année prochaine, et j'en suis très fier. Mais peut-être que dans un autre contexte, eh ben, c'est un joueur qui serait resté en N2, qui ne serait jamais sorti. Donc, il y a aussi le facteur chance, réussite, réseau, être là au bon moment. Je dis tout ça parce que c'est vraiment beaucoup de facteurs. C'est pas uniquement la fédération, c'est pas uniquement les dirigeants, c'est pas uniquement le manque de formation, c'est beaucoup de facteurs qui font qu'aujourd'hui, il y a tellement de monde qui veulent vivre du football qu'il n'est pas facile de faire le tri, même quand tu es un dirigeant de football amateur.
Là, vous avez dévié un peu du cas Pierre Sage, on va y revenir dans quelques instants.
C'est exactement le cas Pierre Sage.
Non, mais, oui, mais là, c'était pas vraiment le sujet du débat.
C'est une conjonction de facteurs qui l'ont mis ici. Tout le monde critique Textor. Si sans Textor, il n'y a pas de Pierre Sage.
Oui,
sans un mec qui think out of the box. Voilà, il faut, penser en dehors de la boîte.
Sans grosso, il n'y a pas de Pierre Sage.
Faire monter des entraîneurs du centre de formation en équipe première, bon, s'il n'y a pas que Textor.
Franchement, personne ne l'avait vu.
Ah bon ?
Un directeur de centre qui devient entraîneur numéro 1.
Eric Salio nous appelle. Deuxième set pour Djokovic, Eric.
Oui, 7 jeux à 5 pour Novak Djokovic. On sentait venir. Et malheureusement, Giovanni Pici a craqué au plus mauvais moment. Djokovic qui a tendu l'oreille. Enfin, il a voulu que le public réagisse. Il a pris des sifflets. Un set partout, donc on va rester un petit peu plus tard que prévu.
Daniel est au stade ?
Ah, pardon ?
Daniel est au stade, donc.
Ah, mais bah, il va se régaler. qualification de Valentin Royer, 74e mondial, qui vient de battre le Bolivien Daniel. Et le vainqueur, Royer, affrontera le vainqueur de Petit Djokovic. Donc, si c'est Djokovic, ce serait une belle affiche. Si c'est Petit, ça veut dire qu'on aura un Français au troisième tour.
Il se passe un truc fou en Italie, les gars. Le Milan est en train de se faire dégager de la Ligue des Champions au profit de Côme. Parce que Milan, dans la dernière journée de Serie A, est en train d'être mené sur son terrain par Cagliari, c'est surprenant, mais c'est comme ça, 2-1 pour Cagliari pour l'instant, et donc Milan serait devancé et par Côme et par la Juve, et Côme pour l'instant virtuellement est en Ligue des Champions, ce qui serait quand même sacrée performance pour ce club qui n'existait pas au niveau italien il y a peu.
T'as investi beaucoup quand même.
On en parle tout